Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Avant d'écouter ce nouvel épisode de Aix, je tenais à partager ma dernière trouvaille extraordinaire. The Braderie, vous choperez des pépites mode, déco, cosmétiques et voyages à des prix imbattable. C'est une application qui réinvente les ventes privées et qui est aussi le sponsor de cet épisode. Et si The Braderie est devenue la destination shopping de toute une génération avec plus d'1 million d'utilisateurs et plus de 470 000 abonnés sur Instagram, c'est pas seulement parce que les meilleures marques sont à moins 70% toute l'année, comme Bache, Jonac, American Vintage, Petit Bateau ou encore Gany. C'est surtout parce que les ventes débutent sur l'application une heure avant leur mise en ligne sur le site internet. Et oui, t'as bien entendu, les ventes se lancent une heure avant sur l'app. Une raison de plus pour l'avoir toujours dans ton tel. Et avec le code promo X15, tu bénéficies de 15 euros de réduction sur ta première commande des 60 euros d'achat. Alors n'attends plus, télécharge l'application The Braderie. Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans X, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. Parfois, être avec la personne qu'on aime, c'est simple. On se rencontre, on tombe amoureux, on vit ensemble, et voilà. Et puis d'autres fois, il faut se battre. Et l'histoire n'en est que plus belle, non ?
J'ai grandi en banlieue parisienne, dans le département des Yvelines. Je suis une enfant issue d'une fratrie de 4. Nous étions 4 enfants. J'ai été élevée par ma mère, puisque mes parents étaient séparés. Je suis une petite fille plutôt sage, voilà, qui sait ce qu'elle veut, mais un peu à fleur de peau, dans la sensibilité, ça c'est sûr. Qui a eu un peu de mal à vivre la séparation de ses parents. On est en 1971, j'ai donc 11 ans. J'habite donc un quartier un peu excentré du centre-ville et j'ai une camarade qui s'appelle Florence, avec qui je m'entends très très bien. Alors, on n'est pas dans le même quartier, donc on ne fréquente pas la même école, mais en revanche, on se voit assez souvent. On fait pas mal de balades et puis un jour, on va se promener. On prend une petite navette pour aller dans un centre commercial. Et là, sur le parking du centre commercial, on croise un groupe de potes. Et donc, Flo, elle connaît tout le monde. Voilà, elle est très connue. C'est un peu l'attachée de presse de la ville et du quartier. Donc, on retrouve son groupe de copains et puis elle me présente. Et là, dans le groupe, très vite, mon regard se pose sur un des garçons qui faisait partie du groupe et que je trouvais très particulier. Alors, du haut de mes 11 ans, hein, quand même, il faut se le rappeler, mais très particulier dans le sens où il était différent. Je trouvais qu'il avait une élégance, une douceur, dans sa posture, de sa manière d'être. Un bel Italien, très grand, avec des cheveux très noirs, et vraiment une douceur dans le regard, dans le sourire. Il s'appelle Bruno. Donc, je vois que lui aussi semble me regarder, et finalement, même si on échange très peu, on sent qu'il y a quelque chose qui respire. Donc, je suis quand même interpellée par ce garçon, mais bon, j'ai 11 ans, c'est un groupe de copains de mon ami, enfin voilà, sans plus. Et puis, on continue notre balade. Et puis, quelques jours après, évidemment, je revois Florence et je lui demande qui est ce garçon, qu'elle m'en dise un peu plus. Et on fait en sorte de se revoir grâce à Florence, en fait, dans leur quartier, puisque eux sont voisins. Ils s'entendent très bien, ils sont un peu comme frères et sœurs. Leur maman habite dans le même immeuble. Ce sont aussi des mamans solo, donc ils sont un peu livrés à eux-mêmes, Florence et Bruno, parce que les mamans partent tôt le matin, elles rentrent tard le soir. Et du coup, ils sont très liés et ils font les 400 coups. Ils sont très indépendants, très autonomes. Enfin voilà, c'est ce que moi je vois du haut de mes 10-11 ans. Et on aime être ensemble, et plus le temps va passer, et plus on va être ensemble tous les trois. Très vite, on a envie d'être que tous les deux, même si on aime beaucoup Florence. Et puis, ça va crescendo, c'est-à-dire que c'est pas simple. Moi, j'habite pas le même quartier, je ne vais pas dans la même école qu'eux, je ne suis pas si libre que ça, parce que je suis la plus petite de la famille, parce que maman est seule. Donc, c'est un peu compliqué. Alors, on trouve des moyens. On organise des booms chez Florence pendant que sa mère est au travail. C'est un moyen aussi de se voir, de ne pas être tout le temps dans la rue. Voilà. On danse sur Barry White. Alors ça aide beaucoup parce que du coup, il y a des rapprochements évidemment facilités. On fait la fête, on planque tout, on met des couvertures aux fenêtres, on crée l'ambiance. Donc c'est un moyen, ça, de se retrouver avec un peu plus d'intimité, lui et moi, malgré le monde qu'il peut y avoir autour. Et puis, moi, j'ai l'occasion de faire quelques petites courses de temps en temps, alors je m'arrange pour que Bruno m'accompagne. Il y a l'histoire de la boîte de raviolis qui est marrante parce que il se trouve que tous les mercredis, moi j'étais en charge par ma maman d'aller acheter une boîte de raviolis pour dîner le soir. Donc j'étais à peu près à 1,5 km de la maison et Bruno évidemment m'accompagnait. C'était notre rendez-vous parce que là je pouvais sortir pour aller acheter cette boîte de raviolis. Et donc c'était incroyable et je trouve ça très émouvant aujourd'hui parce que en fait, quand on devait se quitter, donc Bruno me raccompagnait en bas de chez moi. Sauf que comme on ne pouvait pas se quitter, moi, à mon tour, je le re-raccompagnais en bas de chez lui, qui me re-raccompagnait chez moi. Et c'était sans fin, avec notre boîte de ravioli dans les mains. Et là, on attendait l'heure fatale du retour de nos mères. Et là, il fallait vraiment se quitter. Et moi, j'ai le souvenir de tristesse, de déchirement quand il fallait qu'on se quitte. On ne savait pas quand est-ce qu'on allait se revoir. On n'avait pas de téléphone, on n'avait pas vraiment de moyens autres que ce petit rendez-vous des raviolis du mercredi. Je crois que lui comme moi, être ensemble, c'était un moyen d'apaiser un petit peu nos galères du quotidien. C'était vraiment des moments où on avait juste besoin de poser notre tête sur l'épaule de l'autre, d'être ensemble et de découvrir la beauté des choses simples. On était hors du temps quand on était ensemble, plus rien n'existait, on n'avait besoin de rien d'autre. Donc c'était évidemment de l'amour, mais aussi quelque chose de l'ordre d'une amitié très forte et presque d'une relation frère-sœur. Enfin, je ne sais pas trop le dire aujourd'hui, mais c'était vraiment très fort, oui. Le rapprochement physique qui s'est fait par des petits bisous lorsque nous dansions sur Barry White. L'idée, c'était vraiment d'être l'un contre l'autre. Il y avait quelque chose de très apaisant, une respiration, une harmonie qui vraiment nous suffisait, vraiment amplement. Alors évidemment, les petits bisous, on se donnait la main. On était jeunes, 10 et 11 ans, lui 10 ans, un an de moins. Mais on était amplement comblés par ses bises et ses épaules. En dehors des petites balades pour aller acheter les raviolis et des booms chez Florence, très très vite, c'était intenable pour nous d'être séparés. Donc on a fait l'école buissonnière, ça s'est imposé à nous, on était obligés de faire ça. Donc on a commencé à faire l'école buissonnière. Après, c'était pas simple parce que, en fait, on planquait nos cartables sous la cage d'escalier du gardien, là où habitait Bruno. Et c'était un gardien un peu zélé, quoi. Et il prenait nos cartables en otage pour nous confronter à nos mères le soir. C'est-à-dire qu'il ne nous les rendait pas. Il attendait que nos mères viennent chercher les cartables. Et là, ma mère a découvert que finalement, j'étais peut-être pas aussi sage que tout le monde pensait le croire. Et elle a serré un peu la vis, alors du coup, c'était compliqué. On ne se voyait pas tant que ça. Donc le manque était là, de plus en plus présent, finalement.
Mmh.
Le temps a passé, j'ai déménagé. Lui a changé d'école, il est parti sur Paris. Et petit à petit, on s'est perdu de vue sans vraiment s'en rendre compte. Mais ça a été douloureux. Hein. Et puis, on n'avait pas les réseaux sociaux, on ne pouvait pas s'appeler, on ne pouvait pas communiquer finalement. Je déménage, le temps passe. Il part sur Paris pour son école de photo. Moi, je vis ma vie de mon côté. Finalement, on arrive en une dizaine d'années après. J'ai 20 ans. Voilà, il s'est passé 9 ans. J'habite sur Rennes, je travaille à sur Rennes. Un beau jour, ma mère m'appelle chez moi en me disant « Voilà, il y a un garçon qui cherche à te joindre. Il y a quelqu'un qui m'a appelé. Il s'appelle Bruno. Il voudrait que tu le rappelles. » Donc moi, 9-10 ans après, Bruno, j'en ai connu qu'un. C'est incroyable, quoi. Je me demande un petit peu pourquoi, comment les choses vont se passer. Et puis, par curiosité, je crois que c'était vraiment de la curiosité, j'accepte de l'appeler. Je me dis, on va se rencontrer, ça va être marrant de voir un petit peu où il en est. Et effectivement, je l'appelle et là, on se donne rendez-vous sur le quai de la gare à Suresnes. Voilà. Donc, j'arrive à la gare, le cœur battant quand même. Hein. Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre et à quoi il allait ressembler. Alors justement, là, c'était un peu le choc parce que moi, j'étais plutôt baba cool. Il pleuvait, je me rappelle, donc je débarque avec mon ciré jaune, mes bottes aigle, voilà. Et lui arrive vraiment avec un imper, presque qui traînait presque par terre, un pantalon large, une chemise. Il était très, très beau, très élégant. On n'est pas raccord du tout. C'est marrant, on va avoir des choses à se raconter, voilà. Sur sa vie, sur la mienne, on était vraiment pas raccord du tout. Hein. Donc, on arrive chez moi, je lui offre une tisane, un thé, je sais plus. On discute et tout. Et puis, on passe la soirée ensemble. Et puis, on dort ensemble dans mon lit à une place. Et là, je ne nous reconnais pas. C'est étonnant, je ne nous reconnais pas. Il y a quelque chose qui coince. Vraiment, je me dis, ça a été une expérience, mais ça n'ira pas plus loin. Alors, il me raconte un peu sa vie. Alors, lui, il est photographe, il est plutôt dans le milieu de la mode, il commence à décrocher quelques contrats intéressants. Et moi, j'ai un job hyper basique. J'ai quitté la maison à 17 ans. Mon objectif premier, moi, c'était d'être indépendante, autonome, le plus tôt possible. Donc, j'ai des jobs vraiment basiques, enfin, de secrétariat et autres. Mais je suis très bien comme ça. Voilà, tout va bien. Je sens un décalage. Je me dis, c'est pas mon monde. Enfin, on a évolué différemment, mais la vie, quoi, c'est normal. Finalement, on ne s'était pas vus pendant 10 ans, mais on pensait l'un à l'autre de temps en temps. Sinon, on ne se serait pas vus de cette manière-là. On se quitte comme ça, à bientôt. Mais pour moi, on ne s'est pas reconnus, on ne s'est pas retrouvés. Alors, est-ce que c'était quelque chose d'inconscient? Je ne sais pas. Ou la peur d'y retourner, parce qu'on avait quand même, on s'était beaucoup aimés. La vie reprend. Donc, moi, je travaille à Suresnes, donc dans un groupe américain qui s'appelle Moore Paragon. J'ai eu la chance d'avoir ce job par une amie à moi. On avait fait une école de secrétariat. Je travaillais donc avec elle. Et après, je lui ai proposé d'être en colocation avec moi à Suresnes, puisqu'on s'entendait à merveille. Donc, on travaillait ensemble et on vivait ensemble. Elle s'appelle Lina. On était très, très proches. Et un beau jour, on décide de quitter Suresnes pour prendre une colocation dans la ville natale, où tout a commencé, où je suis née. On avait quelques attaches quand même là-bas et on décide de retourner vivre là-bas. Donc là, on retrouve Flo, Florence, de manière beaucoup plus régulière. On commence à avoir une vie bien remplie parce qu'on a beaucoup d'amis qui passent à la maison. On fait la connaissance de musiciens, donc on suit un groupe de rock. Moi, je prends des cours de basse, Lina prend des cours de guitare. Et c'est tout le temps la fête, on est tout le temps en répétition avec eux. On les suit lors de leurs concerts. Et donc, la vie, elle est belle, quoi. On s'éclate, c'est magnifique. Très vite, on a une vie professionnelle qui n'est plus du tout en phase avec notre rythme de vie. On fait beaucoup la fête, on se couche à pas d'heure. Donc, on se dit que c'est plus possible. toutes les deux, on plaque notre job du jour au lendemain. Et on se demande ce qu'on va faire. Et finalement, au plus simple, on décide de faire les marchés. On se dit, ça va être super, on va faire les marchés, on va s'acheter un camion et on va partir sur la route. Voilà, c'est génial, c'est la liberté. C'était une nouvelle vie qui commençait et les galères aussi, le début des galères financières quand même, parce que on se rendait pas compte que finalement là, le rotin, la vannerie, ça, tout le monde s'en foutait, que les marchés c'était bien beau, mais il fallait se lever à 5h du mat, qu'il fallait tout le temps négocier avec les placiers, c'était pas du tout notre genre, qu'il faisait froid et que finalement on gagnait pas du tout notre vie. On se rend bien compte que c'est pas possible parce qu'on a quand même un loyer à payer. Donc il faut un peu qu'on se recadre. On sait très bien que cette vie de bohème qu'on adore, elle aura un terme, il faudra y mettre un terme. Mais on adorait vraiment cette vie. On aimait le rock et on était baba cool. Et j'avais l'impression, comme elle d'ailleurs, que du coup on prenait tout. On ne voulait pas rentrer dans une case. Et toutes les deux, on arrivait comme ça à avoir un petit peu cet équilibre et cette richesse et cette liberté. Donc au bout d'un moment, il faut quand même que ça se calme. Je sors avec le bassiste de ce groupe. C'est lui qui me donne des cours. C'est quelqu'un de très gentil, de très attentionné. Je crois qu'il est bien amoureux de moi. Moi, je ne sais pas si on peut parler d'un amour si fort, mais en tout cas, c'était quelqu'un de bien, quelqu'un de réconfortant, quelqu'un de simple. Et on sort ensemble. Et finalement, petit à petit, autour de nous, tout le monde sort ensemble, tout le monde a envie de se marier, tout le monde fait un enfant. Et un peu par mimétisme, je me dis, pourquoi pas moi ? Envie de me poser, en fait. J'avais tellement profité que, oui, il y avait peut-être ce besoin de se reposer. Donc, on s'installe ensemble. Lina nous quitte, du coup, elle prend son appartement de son côté. Moi, je m'installe avec Thierry, donc il s'appelle Thierry. Et puis, la vie se déroule très tranquillement. On décide de se marier en 1984 parce que mon petit Quentin pointe le bout de son nez en octobre. Et pour moi, c'est un peu dans l'ordre des choses. Puisque ce bébé arrive, on se marie. Voilà, c'était quelque chose de très simple, en fait, c'était pour moi plus une formalité qu'autre chose. Tout était un peu comme une formalité, en fait, avec Thierry. On n'était pas dans une effervescence. Voilà, c'était calme, certainement trop calme, du coup. Je suis très bien entourée parce que j'adore sa maman, Madeleine, la mère de Thierry. C'est quelqu'un, c'était, la pauvre, elle n'est plus là, mais quelqu'un de formidable, que je trouvais très moderne, très dynamique. Elle disait toujours que j'étais la fille qu'elle n'avait jamais eue. Vraiment une femme formidable. On était entourés de plein de copains musiciens, ça continuait. Enfin, il y avait quand même de la vie, mais il me manquait vraiment quelque chose d'essentiel. Il me manquait, en fait, l'amour. Enfin, je vibrais pas. Et ça me ressemblait pas, finalement. Mais Quentin était là. J'épousais chaque jour qui passait de manière simple et tranquille, pas de vagues pour personne et voilà. Mais je savais au fond de moi que ce ne serait pas toute la vie comme ça. Donc je me suis concentrée sur mon bébé. Finalement, il y avait que mon bébé qui comptait. Et je me suis vraiment rendu compte que finalement, mon mari, c'était un ami et surtout le père de Quentin, finalement. Et la question, c'était, est-ce que je pourrais vivre une vie comme ça et me contenter juste de partager ma vie parce que c'est le père de mon enfant ? J'en étais vraiment pas sûre du tout. Là, c'est un changement de cap radical. Je comprends qu'il faut que je me donne les moyens d'avoir une liberté, d'être en phase avec moi, avec ce que je suis. Mais en même temps, j'étais très attachée à l'équilibre, évidemment, de ce bébé. Certainement aussi de par ce que moi, j'avais vécu enfant, quand mes parents sont partis. J'étais très, très, très attachée à la notion d'éducation, de repères, d'accompagnement et autres, et d'équilibre. Donc, je me disais, tu peux pas partir, c'est pas possible. Lui, il s'ennuie pas. C'est ça le problème. Il y a un vrai déséquilibre. Et moi, effectivement, je suis complètement centrée sur Quentin. Plus du tout sur Thierry, plus du tout sur mon couple. Et là, je trouve une motivation en me disant, ben, je vais trouver des vrais jobs, hein. Je vais me former, je veux être totalement autonome. Et du coup, je me lance dans les préparations des concours de la fonction publique territoriale. Alors, je bosse comme une dingue tous les week-ends, je m'avale des bouquins entiers. Voilà, mon objectif, c'est ça. Sans savoir si je vais quitter Thierry ou pas. J'ai de la chance, j'ai de bons résultats, je m'en sors bien, j'arrive à gravir les échelons, je commence à avoir des propositions de boulot et tout ça. On est en 1988 et là, je décide de faire une grande fête pour mes 28 ans. Ça me ressemble pas trop d'ailleurs, mais je sais pas pourquoi. Je décide de faire ça. Thierry est content, d'accord, on va réunir plein de copains, les siens, les miens, les gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps, et tout le monde est partant, donc c'est chouette. Hein. Évidemment, Flo est invité, donc j'appelle Florence voilà, tout de suite, dès que j'ai la date, et je lui dis, voilà, c'est génial, aide-moi à retrouver, si tu veux, des amis, des copains, et tout, elle me dit, oui, bah d'accord, voilà, bon. Finalement, alors moi, je suis pas au courant, mais... Elle a envie de marquer le coup et elle se dit « qu'est-ce que je vais bien pouvoir offrir à Françoise ?» Et il germe dans sa tête l'idée d'essayer de retrouver Bruno. Et ce serait en fait mon cadeau, ma surprise. Mais en tout bien, tout honneur, hein, vraiment. Je crois que de la part de Florence, c'était en tout bien, tout honneur. Sauf que c'est très compliqué parce que Bruno, lui, la banlieue, c'est pas du tout son truc. Quand il y met les pieds, c'est parce qu'il va voir sa maman. Il a vraiment une vie de patachon. Enfin, sa vie, c'est le palace, les bains douches. C'est pas du tout les petites fêtes en banlieue de retrouvailles, de copains d'avant. C'est pas du tout son truc. Donc, elle essaie de le retrouver, mais c'est super dur. La date de l'anniversaire arrive. Elle n'arrive pas à le retrouver. Elle tape aux portes de sa sœur qui habite dans le quartier. Sa sœur n'a pas trop de nouvelles. Elle va sonner chez sa mère, donc Nina, la maman de Bruno, qui lui dit, ben non, il est pas là. Des fois, il vient le week-end. Oui, je lui laisserai le message. Donc, le seul lien, c'était le téléphone. Alors, elle a... vraiment appelée, mais quand elle m'en parle, des dizaines de fois, elle appelait la mère de Bruno. Et Bruno avait les messages, mais Bruno ne rappelait jamais Florence. Donc, en fait, on saura plus tard, parce que Bruno, évidemment, m'en a parlé, qu'il était dans une phase très, très compliquée. Il venait de perdre sa sœur aînée, à laquelle il était très attaché. Il avait décidé de se désengager de tout. Enfin, pour lui, rien n'avait plus de sens. Donc, l'idée de venir à une fête comme ça, pour moi, il n'était pas là-dedans, quoi. Et Flo a vraiment réussi au bout d'un moment à lui dire « Mais viens, allez, viens, tu t'en fous, viens, on va passer une soirée. » Il a fini par accepter. Moi, évidemment, je suis pas au courant. Donc la soirée arrive, donc tout est prêt. Moi, je suis super contente de cette fête. Je me sens bien, je me suis fait toute belle, je me sens vraiment, vraiment bien. La maison est accueillante, tout le monde a répondu présent. Ça va être une super soirée. Donc à chaque fois qu'on sonne à la porte, évidemment, moi, je me dis, je veux accueillir moi-même. C'est moi qui vais ouvrir à chaque fois. Vraiment, je m'impose ce truc-là. Je trouve que c'est super chouette que ce soit moi qui accueille, quoi. Donc, on sonne, je vais ouvrir une fois, deux fois, trois fois. Et puis, ça sonne à nouveau. Et là, je vais ouvrir, voilà, très naturellement. Et là, j'ouvre la porte et je vois Flo, Florence, qui me regarde comme ça, bien droite, avec un grand sourire jusqu'aux oreilles. Et là, elle me dit... J'ai un cadeau spécial pour toi. Alors, je lui dis, ah bon, super et tout. Et tout d'un coup, elle se baisse. Et derrière elle, qui je vois? Bruno. 10 ans, encore 10 ans après. Donc, il s'était passé tellement d'années, quoi. Et là, on s'est regardé. je crois que mon cœur s'est arrêté de battre, ou alors il s'est emballé, je ne saurais pas bien dire. Je ne savais plus où j'étais, je crois que j'étais dans un mauvais rêve, et je me disais, tu vas te réveiller là, c'est pas... Enfin, Bruno, c'était tellement improbable. Enfin, Bruno, chez moi, dans mon appartement, avec mon mari, avec mon enfant, enfin, mon univers, enfin, c'était quelque chose d'incroyable. Et là, j'avais les jambes qui flageolaient, j'avais chaud, je me disais, mais comment je vais faire? J'ai perdu tous mes moyens, en fait, et lui me regardait fixement. Lui aussi, il semblait être complètement perdu de ce qui nous arrivait. Et là, je me suis dit, mais on est foutu, je suis foutu, quoi. Enfin, là, c'était vraiment le moment. C'était le moment. C'était pas comme 10 ans auparavant, quand on s'était vu à Suresnes. Là, c'était le moment magique, en fait. Quelque chose qu'on peut pas expliquer. Comme un truc qui vous tombe dessus. Sur le pas de cette porte. Alors, d'ailleurs, on était sur le pas de cette porte. Je ne saurais pas vous dire combien de temps ça a duré, mais, et Flo, il était là. Et tout d'un coup, il sort un truc de sa poche. Il me tend un bouquin, un vieux bouquin tout écorné. Et il me dit, ben voilà, je ne savais pas quoi t'apporter. Donc, ben, j'ai pris en partant, mon livre de chevet du moment. Tiens, c'est bon anniversaire. Donc, je regarde. C'était un livre d'Howard Button, Monsieur Butterfly, un très chouette bouquin. Très émouvant, chargé de plein de choses. Et là, je vois une petite dédicace. Je regarde le livre, quoi, et je vois, il était écrit « Petit cadeau aussi peu présentable que sincère. Bon anniversaire. » Donc, il me tend le bouquin. Et puis, bah, je l'ai fait rentrer. Et là, je me dis, il faut que ça s'arrête, cette soirée. Comment je vais faire? Et puis, qu'est-ce qu'il fout là? Enfin, c'était pas du tout son élément, son univers. Enfin, c'était incroyable qu'il soit là. Je me disais encore, tu vas te réveiller, c'est pas possible. Donc, moi, je prends sur moi, j'essaie d'être à la hauteur, j'essaie vraiment de gérer les invités, enfin, d'être avec tout le monde. Mais en fait, je marchais sur des œufs, je marchais dans le coton. Enfin, ça, c'était incroyable. Mais j'ai quand même fait face. Je regardais un petit peu où il était de temps en temps, et c'est incroyable parce qu'à chaque fois que j'essayais de voir où il était, nos regards s'accrochaient tout le temps. Donc en fait, lui aussi, il était en train de regarder où j'en étais. Donc malgré tout, il allait vers tout le monde, et ça, j'avais trouvé ça aussi assez extraordinaire. Il prenait quelques photos, il était venu avec son Leica, il discutait avec tout le monde, mais bon, on était un petit peu en dehors du coup. La soirée passe et finalement, petit à petit, les gens s'en vont. On n'a aucune notion du temps, ni lui ni moi. Plus ça va, plus ça se resserre parce que moins il y a de monde. Et on se retrouve au bout d'un moment, je ne saurais pas vous dire comment, tous les deux, il faisait jour. Il n'y avait plus personne dans l'appartement. On se retrouve tous les deux dans mon salon, assis sur mon canapé. Mon mari était allé se coucher, je ne sais même pas à quelle heure. Et on voit qu'il fait jour, et on se parle, et on se parle, et on se parle. Et au bout d'un moment, on se dit, il faut partir, je dis, il faut partir. Je réalise, je suis chez moi, enfin, il faut que tu partes. Et là, on est complètement hypnotisé par cette situation. Hypnotisé, c'est le mot, quoi. On n'arrive pas à partir, il n'arrive pas à partir, il m'aide à ranger, il n'arrive pas à partir. On se quitte, il me dit, il faut vraiment qu'on s'organise pour se voir. Moi, je dis, mais je ne peux pas te voir, je suis mariée, j'ai un enfant, enfin, c'est juste pas possible. Toi, t'habites à Paris, comment on va faire? Et là, ça devient compliqué parce que moi, j'ai une vie bien rangée, j'ai un job auquel je tiens, je suis en responsabilité, je suis très à cheval sur la question de l'éducation de mon petit garçon, sur l'harmonie que j'essaie de maintenir, la cohérence dans cette vie, même si elle ne me satisfait pas totalement, elle est quand même là. Enfin, on a quand même construit des choses. Alors lui, sa vie, c'est la vie parisienne, la fête, la vie nocturne, c'est des cachets... bien payé, mais de manière très ponctuelle. Il part à Londres pour faire un shooting. Il a son cachet, il rentre à Paris. Pendant 2-3 mois, il fait rien. Il vide son cachet, il essaie pas de prévoir la suite. Il s'en fiche, il vit de ça, il est bien comme ça. Il a de l'argent, il en a pas. Il vit de la même manière, c'est pas un problème pour lui. Il n'a pas d'engagement. Il fait des pochettes de disques. Il travaille pour les magazines de mode. Il suit les défilés de mode et... sont des amis qui lui apportent même les affaires. Enfin, il est vraiment très tranquille, alors que moi, je suis vraiment dans une vie très posée. Et ça, ça fait peur, évidemment. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui me semble être d'une honnêteté incroyable, d'une sensibilité incroyable. Ce que beaucoup de gens bien posés et bien rangés, finalement, sont loin d'avoir. Et moi, je sais ça, je sens ça, parce qu'on se connaît depuis qu'on est petit. Et il y a des choses comme ça, des perceptions qu'on a de l'un à l'autre. Et c'est pour ça que je suis blessée aussi et parfois bouleversée quand j'entends à cette époque-là des gens autour de moi, des proches hein, à qui je me suis confiée, qui me disent « mais t'es complètement folle, mais c'est n'importe quoi, mais il n'est pas fait pour toi, mais c'est un parasite, mais tu te rends compte la vie qu'il a, mais c'est totalement incompatible avec toi ». Mais en même temps, j'avais peur parce que je me disais « peut-être que tu ne te rends pas compte, tu es peut-être éblouie par cet amour qui est là, qui renaît ». Le soir même, quand on s'est quitté, hypnotisé le matin, il me raconte qu'en arrivant chez lui, il s'est coupé tous les cheveux. Déjà, c'était rigolo parce que c'est quelqu'un qui avait vraiment beaucoup de cheveux, il y tenait. C'était comme une rupture avec quelque chose. C'est drôle, cette image. Et le lendemain, j'apprends par Florence qu'il quitte tout. Il quitte Paris et il vient s'installer chez sa mère parce que sa mère habite à 2 kilomètres de chez moi. Et là, il se dit, c'est pas possible ce qui nous arrive, on peut pas tirer un trait là-dessus. Donc, je viens, je serai prêt. Sauf que moi, il a beau être à 2 kilomètres, je travaille, je suis maman, j'ai des horaires, j'ai un mari. Et c'est pas parce qu'il est à 2 kilomètres qu'on va se voir. Et finalement, chaque jour, dans ma boîte aux lettres, à partir de ce jour-là, je trouve une lettre. Le matin, je pars très tôt travailler, il est 7h du matin, je regarde souvent mon courrier en partant, et chaque jour, quand je pars travailler, je trouve une lettre de Bruno. Donc il est venu dans la nuit, à 2 kilomètres de chez eux, déposer une lettre. Et là, je me dis, c'est incroyable ça. Enfin, en fait, il raconte qu'il est là, qu'il m'attend, qu'il est sûr de lui, que nous sommes des privilégiés, qu'on n'a pas le droit de gâcher un truc pareil. Enfin voilà, et qu'il comprend ma situation, qu'il comprend ma vie, mon enfant, mon travail, et qu'il est prêt à m'attendre et à faire tout ce qu'il faut. Le premier baiser, c'est quand on se voit 2-3 jours après cette fameuse fête d'anniversaire, et où là, on confirme effectivement l'un comme l'autre, on n'a pas besoin de se parler, quoi. Enfin, c'est une évidence, c'est un cadeau de la vie, quoi. C'est un cadeau de la vie. C'est très intense, c'est très fort, c'est plein d'émotions. C'est une vraie transformation. Dans le corps, il se passe un truc, quoi. Un vrai truc. On touche plus par terre, on est vraiment sur notre nuage et en même temps tout à fait conscient que ça va être difficile et compliqué. Tous les jours, je trouve des lettres, c'est incroyable. Les lettres s'empilent sous mon lit, dans un carton chez moi. Elles sont toutes, à mes yeux, plus belles les unes que les autres. Je vais vous lire un passage. Ça, c'est une lettre qu'il m'écrit quand il m'attend, en fait. C'est une des premières, je crois. Voilà. Ma beauté, je t'aime de toute ma tête, de tout mon corps, de tout mon temps. J'en tremble de dire ça, c'est si vrai. C'est tellement vrai que je n'attends qu'une chose. L'instant où je pourrais enfin te dire « Viens, ma beauté, viens avec moi. Donne-moi la main et serre-la très fort. Viens, on va partir parce qu'on s'aime et que les gens qui s'aiment n'ont pas le droit d'être malheureux à cause de leur amour. On s'aime, alors aie confiance et prends conscience que nous sommes des privilégiés. Oui, des privilégiés. Car nous vivons la chose la plus extraordinaire qui soit au monde, l'amour. L'amour pour des gens comme toi et moi ne prend-il pas un sens réel uniquement lorsqu'il devient passion ? Je voudrais que tu saches une chose encore, c'est que je suis en train de faire tout ce qu'il est possible de faire pour que cette putain de situation prenne fin. Amour, je suis trop dingue de toi pour ne pas hurler avec force à quel point je veux vivre avec toi, dormir avec toi, rire avec toi, pleurer avec toi, avoir plein d'enfants de toi, tout partager avec toi, tout avec toi. Je t'aime, Brune. Pendant à peu près 18 mois, j'ai eu des dizaines de lettres qui s'empilaient. C'était un trésor, mais un trésor que je devais cacher. Et ça, c'était très difficile à vivre parce que j'étais encore chez moi avec mon époux et mon petit garçon. Mais en même temps, c'était tellement fort et il avait tout plaqué, en fait. Et il attendait chez sa mère. Enfin, c'était incroyable. On arrive à se voir... De temps en temps, ce sont quelques heures volées, à droite à gauche. Autour de moi, mes proches me dissuadent. Et puis, j'ai l'impression de trahir Madeleine, la maman de Thierry, qui était tellement importante pour moi. Mes amis, les amis Thierry, tout le monde, c'était cette culpabilité qui était lourde à porter. Et en même temps, je me trouvais tellement cohérente dans mon cheminement et honnête. C'était une dualité permanente en moi. Néanmoins, je traverse une période de doute, là. Je me dis, c'est pas possible, je n'aurai pas le cran de le faire. Et là, je me dis, il faut que ça s'arrête, il faut que j'arrête ça. Je vais en mourir, c'est pas possible, et lui aussi. Donc, je décide de poser tous mes jours de congé et de partir pour mettre de la distance. Et je prends mon fils et nous partons en Vendée, nous installer quelque temps dans la maison de famille. Et là, il y a deux personnes qui savent où je suis. Donc, mon mari, évidemment, qui sait que ça ne va pas, mais qui ne connaît pas vraiment les détails de l'histoire. Mais il sait que je ne vais pas bien. Et Flo, Florence, mon amie, évidemment, ma sœur, quoi. Et je dis à Flo, de manière très autoritaire, je lui dis, je t'interdis de donner mon numéro de téléphone et mon adresse à Bruno. Je fais cette démarche qui est douloureuse pour moi. Je ne veux surtout pas qu'il sache où je suis. Je vais faire le vide et quand je vais rentrer, bon, je reprendrai une vie plus calme. Et je crois qu'il faut en passer par là. Donc, je fais les valises et tout. On s'en va, on s'installe quelques temps en Vendée, quelques semaines. Et là, un soir, le téléphone sonne. On était dans la maison. Je décroche, c'était Bruno. Là, encore une fois, c'est comme quand on s'est retrouvés à l'anniversaire. Je me dis, c'est un mauvais rêve. Enfin, je suis en train de délirer. Il peut pas m'appeler. Personne sait où je suis. Et là, c'était lui. Ça a duré très peu de temps. Et je me dis, mais comment tu sais que je suis là? Il m'a dit, surtout, ne lui en veux pas. Mais je n'ai pas lâché Florence depuis que tu es partie. Je l'ai supplié de me dire où tu étais. Il faut vraiment que tu saches que c'est juste pas possible. Il faut qu'il se passe quelque chose, là. Et là, je lui dis, bon, très bien, la nuit porte conseil. Donc, on raccroche. Moi, j'étais bouleversée, encore une fois. Et le lendemain matin, je dis à mon père, on fait les valises, on rentre. Donc, on fait les valises, on retourne chez nous. Et là, je dis, ce soir, je réunis une famille et j'annonce que je quitte tout le monde. Je pars, ça y est, voilà. Et donc, j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai annoncé, effectivement, à mon mari que je le quittais. À ma belle famille, à nos amis. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai quitté mon mari, j'ai demandé le divorce. Évidemment, il me fallait trouver un appartement parce que je voulais assumer jusqu'au bout cette démarche. Donc, j'ai tout laissé. Et on s'est installé tout près parce que je voulais surtout pas que Quentin soit coupé de son monde. Donc, je trouve cet appartement, j'annonce à Bruno que c'est OK, mais qu'on va mettre du temps parce que je veux surtout pas que Quentin vive les choses de manière brutale. Et donc, on s'impose encore une année en étant prêts, mais sans vivre ensemble, le temps qu'il fasse connaissance avec Quentin. Alors, la première fois, ils se rencontrent, ben, je crois que Bruno était vraiment ému, mais à un point incroyable. On y est allé vraiment très doucement. Il passait nous voir quelques minutes, comme ça, de temps en temps, mais il ne restait surtout pas à la maison. On a attendu de voir si les choses étaient compatibles entre deux. Bruno, c'est quelqu'un qui a toujours été très proche des enfants, dans le sens où c'est un peu le joueur de flûte, quoi. Les enfants, quand Bruno est là, sont toujours autour de lui. Enfin, c'est incroyable. Il a cette facilité et les enfants sont un peu fascinés par sa manière, son humour. Donc, je n'étais pas du tout inquiète de ce côté-là, mais bon, c'était quand même des moments très importants. Au bout d'un an, finalement, on décide officiellement de s'installer puisque les choses se passaient bien. Donc, on a soufflé un peu, on a relativisé les choses, le temps a aidé. Et on s'est installés ensemble pour de bon. Alors, on s'est battus parce que beaucoup de gens nous ont tourné le dos. Beaucoup de gens m'en ont voulu, les amis Thierry, même ma famille, ça a été très dur. Mais on a serré les coudes et finalement, on s'est rendu compte qu'on s'en sortait très bien sans tous ces gens-là, qui n'avaient pas été à la hauteur de comprendre, en fait, qu'on était des gens plutôt raisonnés, enfin... et raisonnable, finalement. Donc, on n'avait besoin de personne d'autre. Hein, on était bien ensemble. Et puis, on a décidé, évidemment, d'avoir un enfant ensemble. Et Bruno, je me rappellerai toujours, il m'a dit, tu sais, moi, je veux pas un enfant de toi, je veux une fille de toi. Il voulait une fille, en fait. C'est drôle, hein. Et quelle chance, puisque nous avons une fille, une petite Suzanne qui est née en 1991. Ce que je trouve merveilleux, c'est l'harmonie qui s'est mise d'une manière tellement simple et évidente dans notre famille. C'est-à-dire que déjà, moi, je tire mon chapeau à Bruno parce que je ne sais pas comment il a fait pour être aussi présent et en même temps si respectueux de la place du père de Quentin, cette bienveillance constante. Et le fait que Suzanne arrive justement à renforcer tout ça, c'est-à-dire qu'il était tout le temps en train de se dire « est-ce que je n'en fais pas trop pour l'un ?» Alors il avait même tendance à en faire plus pour Quentin parfois que pour Suzanne. C'était incroyable. Et alors cette harmonie aussi, elle est formidable parce que, et c'est en ça que notre rencontre, elle est magique et on est de grands privilégiés, c'est qu'on n'a pas besoin de se parler sur les évidences de la vie qui sont, pour plein de gens, qui sont pas des évidences, mais qui pour nous l'étaient. Rien n'était attitré pour l'un ou pour l'autre. C'était évident. Et notre fille, quand elle a commencé à bien s'exprimer, elle nous a appelés « Mapa ». C'est-à-dire qu'elle ne m'appelait pas maman, elle ne l'appelait pas papa. Elle nous appelait tous les deux « Mapa ». En fait, elle avait compris que nous étions le père et la mère. Pour elle, tous les deux. Moi, je trouve ça très beau. Il a continué à m'écrire lorsqu'on vivait ensemble. En 93, on décide d'acheter une maison ensemble. Donc, on achète une ruine qu'on retape tous les deux. Voilà, les enfants sont là au milieu du chantier en permanent. On est super heureux, quoi. Enfin, il n'y a plus de problème et on y est très heureux. C'est le bonheur parfait. Et curieusement, beaucoup de gens reviennent vers nous. On a montré qu'on ne s'était pas trompé et que tout le monde s'était trompé autour de nous. Voilà. Ça, c'était aussi important pour nous. C'était une petite revanche. On décide de se marier en l'an 2000, en fait. Alors... c'est plus moi qui veux me marier, je sais pas pourquoi. Bah, peut-être justement pour montrer qu'on avait tenu la route, en fait. Voilà. Et qu'il fallait nous faire confiance à ce moment-là. Mais on n'est pas très conventionnel non plus. On se dit qu'est-ce qu'on va faire? On ne veut pas d'un lieu qui nous ressemble pas. Et on voulait pas inviter des gens qui auraient pu se sentir obligés de venir. On voulait surtout pas ça. Donc, en fait, on s'est dit, on va faire un mariage à l'italienne, un petit peu. On va vider la maison. Donc, on a déménagé la maison. On a enlevé tous les meubles qu'on a stockés chez nos voisins dans la rue. Et on a lancé un petit carton qui n'était pas un carton d'invitation, mais un carton d'information, plutôt. Et là, on disait que, voilà, on était très heureux d'annoncer que nous allions nous marier et que, bien entendu, tous les gens qui seraient heureux de venir partager ce moment pouvaient passer, voilà, boire une coupe de champagne à telle adresse et tout ça. Donc, c'était ouvert et il n'y avait pas besoin de confirmer la présence. C'était très excitant, finalement, de le vivre comme ça. Donc, on avait invité tous les gens de la rue, des gens qu'on connaissait à peine, en disant, voilà, un grand jour pour nous, passer à la maison, partager une coupe, on se marie, voilà. Et c'était vraiment tout sauf conventionnel, hein, en fait. Et lorsque l'heure est arrivée, on s'est préparé, on est parti donc à la mairie. Et là, quand on est arrivé sur le parking, il y avait plein de monde. C'était incroyable. Tous les gens qui nous avaient tourné le dos, tous les gens qui n'avaient pas cru en nous, tous les gens qui étaient là. Donc, ça a été formidable. Ça a duré la journée, la nuit. Les bouteilles de champagne, il y en avait partout. voilà. C'était génial. On avait bien calibré les choses. Et on était très fiers de ça, parce que les gens qui étaient là étaient vraiment là pour nous et pour fêter cette belle histoire, je crois. Nous sommes très heureux, nous avons eu beaucoup de chance. Je souhaite vraiment à tout le monde de vivre une histoire pareille. Je crois qu'on va vraiment finir nos jours ensemble. J'ai fait le bon choix. Voilà, les histoires d'enfants... Il faut les prendre au sérieux. Parfois, on dit aux enfants, « Oh, ce sont des histoires de gosses, ça passera. » Nous, on s'est construit sur cette histoire d'enfants. Et il faut les prendre au sérieux. Il faut écouter les enfants, effectivement. Alors, pour conclure, j'aimerais bien que ce soit Bruno qui ait le mot de la fin, puisqu'il n'est pas là avec nous aujourd'hui, mais qu'il m'a fait confiance en acceptant que je confie notre histoire. Donc, je vous propose un extrait d'un courrier qu'il m'a écrit lorsque, il y a pas si longtemps que ça, lorsque nous étions dans cette fameuse maison, notre première maison, en tout cas. Mon amour, je voudrais tout écrire sur tous les tons, de toutes les manières, de toutes mes forces. Je voudrais que cette lettre ait de la tenue, du style, que ce soit un texte digne du message qu'il est censé porter. Bref, je voudrais être un grand écrivain pendant quelques minutes dans ma vie. Juste le temps d'écrire cette lettre d'amour. Ça dirait comme ça. Que cet amour-là, c'est une histoire. C'est un amour fait sur une histoire qui devient vraiment de l'amour au fur et à mesure que le temps passe. Bien sûr que ce qui vient tout de suite à l'idée... c'est que c'est justement ça, une histoire d'amour. Seulement non, justement, ce n'est pas ça du tout, notre amour. Car, pour nous, la différence, c'est que notre histoire et notre amour sont deux choses bien distinctes l'une de l'autre. Mais la vie, notre courage, notre passion, notre patience et notre confiance ont fait se conjuguer ces deux choses qui n'avaient pas forcément quelque chose à faire ensemble. En tout cas, pas pour toute la vie. Eh bien si, ce sera pour toute la vie. Parce qu'il le faut, parce que ça ne peut pas être autrement, et que si nous avions la possibilité de tout refaire, nous referions la même chose pareil. Tu me dis souvent que nous, c'est pas pareil. C'est très vrai. Nous, ce n'est pas pareil, parce que notre amour, c'est une vraie histoire, avec des choses rares, avec des rencontres d'enfants qui ne s'oublieront plus jamais, mais qui le savent déjà, car ils pleurent en se séparant devant l'école, une triste boîte de raviolis à la main. Ces enfants qui ne savent pas ce que c'est l'amour sont pourtant en train de fabriquer les bases, les fondations de leur histoire d'amour. Ils garderont toujours des mots, des gestes, des goûts de l'autre. C'est ce qui va les constituer. C'est très beau, c'est vrai, donc c'est triste parfois, comme les séparations d'enfants qui s'aiment. Mais notre vie d'aujourd'hui est une récompense tellement inouïe, tellement parfaite, qu'il ne faut pas trop en parler. Ne pas éveiller les choses qui risqueraient d'être néfastes. Évoquer notre vie du bout des lèvres, dans un souffle, du bout de tes lèvres, que j'embrasse et que j'aime, et que j'embrasserai toujours et j'aimerai toujours. Et ta voix, ton Brune.
Merci à Clémentine Delagrange qui a réalisé cet épisode, à Isabelle Field qui l'a monté et à Alexandre Ferreira qui l'a mis en musique. Si vous l'avez aimé, surtout n'oubliez pas, mettez-nous des étoiles et des commentaires. Merci beaucoup. Merci pour votre écoute et merci à The Braderie, notre sponsor. Pour rappel, avec le code promo X15, tu bénéficies de 15 euros de réduction sur ta première commande des 60 euros d'achat. Alors n'attends plus et télécharge l'application The Braderie.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.